La deuxième partie de la grande table raccourcie aujourd'hui, comme un jeudi sur deux, nous laisserons place autour de 13h20 au rendez-vous du médiateur. Mais pour commencer, quelle terre pour demain? Avec le philosophe Dominique Bourg, notre invité, professeur à Lausanne, président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, ex-fondation Nicolas Hulot, auteur du dictionnaire de la pensée écologique où il a théorisé l'écologie intégrale, un concept qui place le rapport à notre environnement au cœur de l'humanité, de la production matérielle et intellectuelle. Crise écologique et crise sociale, par exemple, vont de pair selon lui. La pensée écologique, un mouvement d'idées, un courant de pensée à part entière qui méritait bien une plateforme qu'il a récemment cofondée. En parallèle sort son nouvel essai « Une nouvelle terre » où il réfléchit à la manière dont nos sociétés devraient se développer à l'avenir pour dessiner une autre modernité. À partir de deux questions majeures, l'état de la terre associé à l'idée d'anthropocène et le défi numérique. Bonjour à vous Dominique Bourg.
Bonjour.
Une petite question tout d'abord. Vous êtes félicité de l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Rappelons que vous êtes, ou vous étiez jusqu'ici en tout cas un proche de Nicolas Hulot, qui a mis tout son poids dans la balance pour que le projet soit retiré. Quid maintenant? Pour Nicolas Hulot, le combat mené pour préserver les terres agricoles, les terres humides et la biodiversité est atteint, je le cite. Mais il précise aussi, attention, le Larzac n'est pas reproductible ici. Vous, dans votre essai, votre nouvel essai, Une nouvelle terre, vous défendez l'idée d'un retour à la vie simple. Est-ce que cette ZAD de Notre-Dame-des-Landes n'était pas un laboratoire possible?
Si, j'espère que ça va le rester, ça continue, mais une petite rectification qui n'est pas sans importance. Hein. L'abandon de Notre-Dame-des-Landes n'a été acquis absolument pas pour des raisons environnementales. Hein. En fait, il y a eu deux raisons. Et j'en profite pour dire qu'on publiera sur la pensée écologique un entretien avec Michel Badré, qui est un des trois rapporteurs du rapport sur Notre-Dame-des-Landes, où en fait, on s'aperçoit, il y avait deux... Ils ont réussi à faire basculer deux arguments qui étaient très importants. L'un, ça concernait le coût de la réflexion de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Ils ont montré que c'était trois fois moins cher que ce qui avait été prévu. Et le deuxième élément qui a fait basculer le dossier, c'est que la DGAC avait remis en 2013 des cartes sonores qui montraient, si vous voulez, que l'augmentation du trafic allait étendre l'empreinte sonore et en fait allait rendre indensifiable une partie de la ville de Nantes. Et en fait, en refaisant les cartes, en intégrant la signature sonore des nouveaux appareils et le renouvellement des appareils, on voit que l'empreinte sonore ne bougera pas, donc le sud de Nantes est tout à fait densifiable. C'est ces deux raisons-là qui ont fait basculer la question sur l'aéroport. L'environnement, la biodiversité, le climat, vous pouvez les mettre de côté. Ça n'a absolument joué aucun rôle.
Et en revanche, en ce moment, du coup, quand même pour vous?
Bah oui, justement. Là où il pourrait jouer un rôle, à mon avis déterminant, c'est effectivement en acceptant le meilleur de ce que demandent les zadistes. Et il y a des choses très intéressantes dans ce qu'ils demandent, notamment effectivement la question des communs. Alors évidemment, on ne va pas changer d'emblée le droit, mais on peut trouver, s'il y a des moyens termes, pour leur permettre d'initier ce genre d'expériences qui sont extrêmement intéressantes et qui vont dans le sens justement d'une vie plus simple et d'une nouvelle terre.
Mais vous avez vu quand même, vous, dans cet abandon, j'ai lu ça dans la presse, cet abandon comme le signe d'une France qui est en train de changer de civilisation. C'est vous qui avez un tout petit peu extrapolé sur la force de l'événement?
J'ai terriblement extrapolé. Et en fait, ça, si vous voulez, ça ne veut pas dire que ça n'avait aucun sens de dire ça. Ça avait un sens pour la plupart des gens. La plupart des gens y ont vu ça. Et moi aussi, j'y ai vu ça. Mais ensuite, quand on regarde le dossier par le menu, désolé de devoir vous le dire, ça n'a joué aucun rôle.
Et pourtant, il y a des efforts qui sont faits manifestement sur le plan de l'écologie en général. Vous ne les remettez pas en cause,
non,
vous ne dites pas que ce sont de faux efforts.
Quel est
le problème?
Le problème, il est simplement que si vous voulez, quand on a affaire à des décisions importantes, à des décisions économiques, ces aspects environnementaux, ces aspects climat, ces aspects biodiversité, qu'on met en général en avant dans les grands messes internationales, ne jouent qu'un rôle relativement réduit. Et d'ailleurs, le Premier ministre lui-même, Édouard Philippe, lorsqu'il a présenté à la presse la décision du gouvernement, est-ce que vous avez entendu à un moment donné qu'il mettait en avant la question de l'accord de Paris, de la conformité à l'accord? Pas du tout. Absolument pas. Et là, il était absolument honnête. Donc, si vous voulez, l'interprétation que j'ai donnée, c'est l'interprétation qu'un certain nombre d'acteurs peuvent donner. Mais c'est pas les motifs réels de la décision publique. Alors, maintenant, on peut interpréter les choses de deux manières. Moi, je l'ai interprété en tant qu'environnementaliste. Mais les décideurs ne l'ont pas vu de cette manière.
Alors, aujourd'hui, c'est quand même le ministre de la Transition écologique qui est envoyé au front dans les négociations.
Tout à fait. Pourquoi? Alors, ça, c'est là. Alors, ça, justement, ça, c'est très bien. On passe à autre chose. Donc, lui, maintenant, entre en scène et essaie de défendre, essaie de sauver ce qu'il y a à sauver sur la ZAD.
Et qu'est-ce qu'il y a à sauver sur la ZAD?
Qu'est-ce qu'il y a à sauver? C'est des expérimentations. Des expérimentations écologiques. On essaie à la fois de mettre sur pied des nouveaux modes de production, donc inspirés, alors ils ne sont pas tant nouveaux que ça, inspirés de l'agroécologie, inspirés de la permaculture, que sais-je. Mais alors surtout, ce qui est très différent, c'est que les gens qui le font revendiquent en même temps une sorte d'entrelacs entre les modes de production qu'ils veulent pratiquer et leur mode de vie. Il suffit d'aller voir sur place. Ça franchement, dans le genre vie simple, ils sont pas mal quand même.
Ça veut dire quoi? On est autonome, on produit ce qu'on...
Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un aspect juridique. Si vous voulez, toute la raison pour laquelle nous sommes dans la situation dans laquelle on est, c'est parce que on a, si vous voulez, rehaussé au-delà peut-être de ce qu'il convenait, la stature de l'individu. Effectivement, pensez à la déclaration de Portalis, en inaugurant le code civil, c'est le droit d'user et d'abuser, c'est un droit individuel absolu, et ce que les zadistes ont opposé, c'est dire, nous on veut construire un commun, vous arrivez à le faire en tenant compte aujourd'hui de l'état du droit, et en tenant compte, ils vont aussi le faire bouger, le droit ça bouge. Et donc, si vous voulez, en ce sens-là, il y a déjà un élément juridique qui est vraiment important. Si vous regardez le droit avant le 18e, avant la Révolution, si vous voulez. La propriété individuelle, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas. La plupart des propriétés sont feuilletées. Et quand on possède un patrimoine, c'est un patrimoine. C'est-à-dire qu'on est tout à fait conscient de la lignée et qu'on n'a pas le droit d'abuser, qu'on doit remettre ce dont jouit à un moment donné à ses enfants, etc. Donc, on a, et quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel français ne tient pas du tout compte de la Charte de l'environnement. Il y a eu deux colloques au mois de mars faits là-dessus. Le résultat est très clair. Le seul article qui compte pour le Conseil constitutionnel dans la Charte de l'environnement, c'est l'article 7, celui qui met en avant le droit à l'information et le droit de participer à la décision publique quand elle concerne les questions environnementales. Parce que de tous les articles de la Charte de l'environnement, c'est celui qui ressemble le plus aux droits et libertés classiques, notamment au droit de produire, au droit de commercer. Donc on est dans un système, si vous voulez, symbolique, pour lequel ces aspects environnementaux n'existent pas. Et justement, à Notre-Dame-des-Landes, on essaie de bousculer cet ordre symbolique. On essaie de le faire changer, de le faire évoluer. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel.
Donc il y a dans cette ZAD quelques ingrédients de ce retour à la vie simple que vous appelez de vos voeux, Dominique Bourg, et qui pourrait peut-être être expérimenté là et étendu ensuite à plus large échelle, si ça fonctionne sur une échelle plus large.
Tout à fait, là et ailleurs. Alors, je ne suis pas non plus en train de vous dire que sur la ZAD, il n'y a que des saints. On a vu que ce n'était pas tout à fait le cas. Mais en tout cas, il y a des gens qui, en l'assumant dans leur quotidien, dans leur consommation, dans leur avenir, assument une vie plus simple et essaye d'expérimenter un devenir différent de la société. Ça mérite d'être respecté.
Votre constat, Dominique Bourg, dans cet ouvrage Une nouvelle terre, l'humanité pourrait à l'avenir gémir de douleur face aux conséquences du progrès si elle ne parvenait à se libérer du tropisme de la mécanisation, destruction indéfinie du donné naturel, si elle ne parvenait à désirer à nouveau la simplicité de la vie. Longtemps, l'objectif de l'homme a été de maîtriser la nature, malgré une croyance illimitée dans le progrès technique. Vous constatez aujourd'hui notre absence de maîtrise des phénomènes qui nous entourent. Sur quoi vous vous appuyez aujourd'hui, Dominique Bourg, pour affirmer que l'idéologie du progrès a vécu?
Alors, je m'appuie sur plusieurs choses. Et déjà, si vous voulez, des constats très très simples. Si je fais le constat de l'état de la planète aujourd'hui, c'est quand même relativement alarmant. Pas alarmiste de le dire, c'est tout simplement alarmant. Alarmant sur le plan du changement climatique, ça tout le monde le sait, on n'arrête pas de le dire. Je vous rappelle par exemple que le coût des catastrophes naturelles aux États-Unis, on est à 3 milliards de dollars dans les années 80, on est à 40 au début de la seconde moitié de la deuxième décennie du siècle. Et si vous regardez 2017, qui a probablement été une année exceptionnelle, on est à plus de 200 milliards de dollars. Donc on voit bien qu'on a une certaine forme d'accélération. Dans la dernière année, vous avez une pluie de rapports sur l'état du vivant. Encore récemment, on nous apprenait qu'on voit le nombre d'espèces végétales ou animales monter vers les cimes qui s'accélèrent. Une fois qu'elles sont sur les cimes, après c'est l'au-delà. Hein. Je veux dire, il n'y a plus de refuge possible. On nous a montré que même dans une région protégée d'Allemagne, il y avait depuis 27 ans 75% de la population des insectes volants qui avaient disparu, etc. etc. Je ne vais pas vous faire la litanie.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça passe à côté de nous sans qu'on se sente particulièrement concerné. C'est justement sur ce dualisme que vous revenez une fois encore dans cet ouvrage, où vous nous dites qu'il faut arrêter de voir l'homme comme étranger, extérieur à la nature, qu'en réalité nous faisons corps avec elle, et vous entrez aussi en résistance contre le paradigme technoscientifique, vous actez la fin de cette modernité dualiste, fondée sur le mythe d'une croissance infinie. Vous êtes assez sévère avec la numérisation, qui pour vous a fait des ravages jusqu'ici, contribuant au devenir très inégal du monde, je vous cite, ruinant le commun d'informations qui constituait autrefois la base du débat démocratique, contribuant à la montée des extrêmes et des populismes, tout ça. Mais au fond, la technologie, c'est pas elle le problème, c'est quand même l'usage qu'on en fait.
Probablement. Cela dit, on s'aperçoit que quand on technicise un domaine, de façon quasi systématique, on va arriver à des inégalités. Et effectivement, avec le numérique, si vous voulez, avec le développement récent du numérique, on a eu la possibilité d'une concentration de richesses extraordinaire. Hein, c'est les fameux GAFA. Bon, alors, je suis pas en train de dire que le numérique, c'est un mal en soi, hein, pas du tout. Hein, mais si vous voulez, dans le contexte économique, avec les régulations qui sont les nôtres aujourd'hui, effectivement, et tout le monde s'en rend compte aujourd'hui, hein, tout le monde se rend compte que, effectivement, cet état d'information a joué dans l'élection de Trump, joue dans les populismes qu'on voit partout. C'est pas le seul facteur, hein. C'est toujours très compliqué, la réalité. C'est un des facteurs possibles. Mais disons, ce qui parfois m'agace vraiment beaucoup, si vous voulez, du côté du numérique, c'est une espèce de surdétermination de la réalité et une interprétation qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire, on le fétichise. Hein. Par exemple, même ici, à votre ronde, quand vous avez, je crois, reçu Cédric Villani, il vous a rappelé qu'il n'y a pas de concept, etc., que l'intelligence artificielle, la dénomination n'est pas tout à fait appropriée. Moi, je parle d'exosomatisation, ça permet de beaucoup mieux comprendre ce dont il s'agit. Ça permet de développer dans un secteur nos capacités cognitives et mentales de façon fabuleuse. Je ne suis pas en train de nier ça. Simplement, dans le contexte aujourd'hui, si vous voulez, les effets sont quand même relativement dramatiques parce qu'on est dans une ère où on a quand même fait sauter beaucoup de régulations. Et donc, du coup, on donne libre cours à certains mécanismes, on les laisse aller jusqu'au bout. Je vous rappelle que très récemment, la Banque mondiale a dit que face au numérique, la solution, c'était de détruire le droit du travail pour libérer la concurrence entre les individus et les machines. Donc, vous voyez bien que dans le contexte néolibéral d'aujourd'hui, on arrive à des absurdités et quand même à des affirmations extrêmement dangereuses et scandaleuses.
Alors par quoi le remplacer? Est-ce que le fait de vouloir se reconnecter à la nature n'est pas une nouvelle utopie, Dominique Bourg?
Alors je ne pense pas que ce soit une utopie et les choses vont très 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 vite. Je vous donne simplement quelques petits signaux faibles que je trouve très très intéressants. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en biologie, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de faire exploser la frontière entre le végétal et l'animal. On avait fait, dans la deuxième moitié du XXe siècle, exposer la frontière entre l'humain et l'animal. Les critères de partition entre humain et non-humain de la philosophie classique ont sauté les uns après les autres. Il n'y a pas langage, absence de langage, outil, absence d'outil, culture, absence de culture. Il y a une espèce de différence, de jeu de différence très très gradué. Eh bien, on est en train de nous montrer exactement la même chose sur le végétal aujourd'hui. Les végétaux échangent des signaux électriques. Les signaux électriques, c'est le support de la pensée, ont des stratégies, etc., peuvent faire preuve, entre guillemets, de solidarité. On a là une explosion totale. Vous avez, par exemple, les travaux de l'écopsychologie, alors c'est plutôt les travaux nord-américains, qui, depuis une trentaine d'années, ont mis en évidence à quel point, finalement, si vous voulez, les centaines de milliers d'années de procès d'hominisation ne se sont pas effacées. Hein, le contact avec la nature, le contact avec la forêt, avec différents éléments, a des vertus de bien-être, voire des vertus thérapeutiques. Je vous donne un exemple très très concret. Au CHUV de Lausanne, on s'est débarrassé des machines pour réveiller les comateux. On a tout simplement établi un jardin.
C'est quoi le CHUV? C'est l'hôpital?
L'hôpital universitaire, le CHU, si vous voulez. L'équivalent d'un CHU français. Et en fait, pour réveiller les comateux, on les met dans un jardin. Et c'est beaucoup plus efficace. Donc, vous avez aussi des signaux, je pense à une émission de télévision, je ne regarde pas souvent la télévision, mais celle-là, je l'ai regardée, de Frédéric Lopez, qui portait sur les Cévennes, où là, on voyait un homme d'une quarantaine d'années nous parler de sa relation à la rivière. En fait, il avait une relation hyper spirituelle à la rivière. On dirait chamanique, si vous voulez. Donc, on voit toutes sortes de signaux faibles. Vous le voyez avec les droits de la nature, etc. Il y a des signaux faibles qui sont en train de monter. Et on voit qu'il y a une partie de la société qui tourne le dos à cet hyper-technicisme. Il ne s'agit pas de récuser les techniques, c'est ridicule. Mais à cette espèce de fascination un peu ridicule où on est dans l'idéologie du progrès. L'idéologie du progrès, c'est que l'avancée des connaissances scientifiques, via ses retombées techniques et industrielles, débouche nécessairement sur une amélioration de la condition
humaine. Antoine Mercier est en train de nous faire un signal fort pour intervenir.
Non, non, pourquoi faudrait-il abolir les frontières entre toute la nature, l'humain, etc., l'animal, pour respecter cette même nature, ces mêmes animaux. C'est-à-dire, quel est l'enjeu ? Il y a un enjeu idéologique, si je comprends bien, puisque vous dites qu'il faut sortir de ce schéma idéologique, pour précisément ensuite avoir une attitude de respect. C'est pas évident, parce qu'on pourrait dire, a priori, on pourrait l'avoir et on peut ne pas l'avoir peut-être avec aussi.
Bah, écoutez, alors, l'avoir avec un anthropocentrisme tel qu'on l'a construit avec l'ère moderne, en fait, hein, où on s'est à un moment donné imaginé que la seule fin en soi était la personne humaine et que tout le reste est de l'ordre du moyen, c'est assez difficile quand même. Vous en conviendrez facilement. Et ce qui a fait changer les choses aujourd'hui, c'est une évolution des sensibilités. Je suis pas végan moi-même, mais je suis assez admiratif de l'engagement de certaines personnes. Et en fait, il boue la société en général, il la contraigne à avoir une sensibilité plus forte à la condition animale, ce qui est une chose en soi qui me semble plutôt positive. Maintenant, il ne s'agit pas d'effacer les frontières, il s'agit de comprendre que les frontières ne sont pas des murs, qu'elles sont extrêmement poreuses, et que du fait de leur porosité, elles nous indiquent une forme de solidarité, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que, bah évidemment, les êtres naturels ne sont pas forcément des agents moraux, mais ils sont au moins des patients moraux. Et en fait, ils peuvent être de véritables agents de communication. Alors ça, aujourd'hui, c'est pareil, vous avez des travaux qui font florès sur le sujet. C'est ça que ça signifie. Il ne faut pas tomber, si vous voulez, d'une position tranchée, simpliste. Les hommes sont les seuls fins. Le reste n'est que moyen, doit être exploité, voire détruit, à arriver à une espèce d'inverse, c'est-à-dire qu'on est tous à quatre pattes et on broute l'herbe. Il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit de construire une civilisation nouvelle en gardant, en fait, le meilleur de ce que la modernité nous a apporté. C'est une certaine compréhension des droits humains, j'insiste, dans le livre, les sciences, etc. Il ne s'agit pas du tout, encore une fois, hein, de s'imaginer qu'on va redevenir un peuple premier. Ce n'est pas le problème. Mais on va réintégrer des choses que les peuples premiers, aujourd'hui, ont su préserver.
Derrière l'écologie intégrale, il y a un nouveau modèle économique, voire un nouveau modèle de civilisation que vous défendez, ou est-ce qu'il y a plutôt une nouvelle spiritualité ? C'est-à-dire qu'en gros, après le christianisme, après la religion de la croissance, il y aurait aujourd'hui cette écologie.
Et est-ce que ce n'est pas un paganisme ?
Est-ce que ce n'est pas
un paganisme aussi, un retour ?
Alors, venant de ma part, non. Non,
je pas, vous avez évoqué la rivière, la spiritualité de cet homme.
Oui, mais alors, si vous voulez, le propre du christianisme, c'est d'avoir été un conservatoire. Vous avez des saints sangliers, un saint sapère. Bon, donc, on ne va pas revenir là-dessus. Mais ce que je veux dire, je veux simplement revenir sur le lien, si vous voulez, entre spiritualité et économie. Il n'y a pas à opposer les deux. Ce que j'entends par spiritualité, ça a déjà un sens ontologique. Et qui joue sur le très 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 long cours. On voit bien qu'aujourd'hui, la manière dont on perçoit dans notre société le donné naturel, c'est plus la manière dont on le percevait au 19e. On voit qu'il y a une certaine forme d'empathie vis-à-vis du vivant, une forme d'empathie vis-à-vis de la nature qui est en train de monter. Encore une fois, j'insiste, ce sont pour le moment des signaux faibles. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a une économie qui reste extrêmement destructrice. Et si vous regardez du côté des transhumanistes, etc., on va dire, il n'y a pas de problème, on va conquérir la galaxie, on va pomper l'énergie du système solaire, ensuite après, on va détruire les étoiles les unes après les autres. Tout ça, c'est des fidélités absolument géniales pour le genre humain. Bon, ça existe. Aujourd'hui, c'est très fort. Mais vous avez dans l'économie aujourd'hui des acteurs qui commencent à réagir autrement. Et alors, vous en avez beaucoup. Vous avez des entreprises, vous avez à l'intérieur des entreprises des gens qui veulent changer. C'est un mouvement lent, difficile. Il ne s'agit pas, si vous voulez, comme ça, du jour au lendemain, de bousculer la société.
Compatible avec le capitalisme ?
Au bout du compte, certainement pas. Peut-être des poches résiduelles de capitalisme, mais un capitalisme effréné tel qu'on le connaît aujourd'hui, alors ça, certes pas.
Je vais vous lire deux extraits. On va voir si vous arrivez à percevoir une différence. Là, c'est vous, dans la croix. Les dégâts sur la biosphère sont désormais accessibles au sens. Les effets du changement climatique sont devenus palpables. Ouragans, inondations, grosses chaleurs, sécheresse à répétition, le récit du progrès infini et de la croissance bienfaitrice se fissure. Et maintenant, une autre citation. En polluant les océans, en réduisant la biodiversité, nous asphyxions, tuons notre planète. Il n'y a pas de planète B. Là, c'est Emmanuel Macron, hier, devant le Congrès américain, appelant les États-Unis et la France à retravailler ensemble et à surtout poussant les États-Unis à revenir peut-être dans cet accord de Paris qu'ils ont quitté.
Vous êtes démasqué, là.
Alors, je vous assure tout de suite, c'est pas moi qui inspire Emmanuel Macron. J'espère que c'est mon ami Nicolas, mais ça n'est pas moi.
Est-ce que ça y est, aujourd'hui, l'écologie est devenue une priorité au moins d'un gouvernement ?
Écoutez, franchement, je peux pas dire oui. J'aimerais beaucoup pouvoir vous dire oui. J'aimerais voir les effets du discours d'Emmanuel Macron. Mais je vous renvoie simplement au discours des chefs d'État à l'entrée de la COP21. Ils étaient tous en train de pleurer. Ils avaient à peu près tous des propos du type de celui d'Emmanuel Macron. Maintenant, si vous regardez, c'était analysé par une jeune équipe française il y a peu de semaines, le texte vient d'être publié, si vous regardez les engagements pris par les différents États à l'entrée dans la COP21, alors c'est très difficile de les mesurer parce que certains sont des engagements à 25 ans, à 2025, excusez-moi, d'autres à 2030, certains c'est en absolu, réduction absolue, d'autres c'est par point de PIB, etc. Donc faire le calcul est très difficile. Mais ça donne grosso modo une fourchette qui va de 2 degrés à presque 6 degrés d'augmentation à la fin du siècle. Donc entre les discours et les actions, c'est un petit peu normal, il y a toujours une certaine différence. Mais là, si vous voulez, c'est de l'ordre de l'abîme. Alors je trouve magnifique ce qu'a dit notre président. Vous vous souvenez des propos de Jacques Chirac en 2002 à Johannesburg. Vous avez remarqué que depuis, la situation s'est quand même largement dégradée. Alors me faire croire que, si vous voulez, dans 5 ans, ça sera différent parce qu'on entend ces propos de la part d'autorités publiques, et en France les plus élevées, ben j'aimerais bien avoir cette naïveté, je ne peux pas l'avoir.
Là, vous dites aujourd'hui, Dominique Bourg, il y a deux discours. L'aménagement du même modèle, ça c'est ce que prône Emmanuel Macron, ou une vision carrément cynique, ça c'est celle de Donald Trump sur cette question sociale et environnementale. C'est ce que vous décriviez dans la revue Esprit. Les élites sont contre l'idée de changer de modèle. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que malgré ces dégâts visibles, personne n'est prêt à remettre en question le modèle actuel.
Non. Non. D'ailleurs, vous regardez simplement l'article 3 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Les mesures qui seront prises en faveur du climat ne doivent en aucun cas, vous m'avez entendu, s'opposer au développement du commerce international. C'est donc la fin suprême, c'est le développement du commerce international, c'est pas la défense de la Terre.
Alors, vous nous proposez un retour à la vie simple. Comment vous faites, vous?
Alors, moi, je n'ai pas de voiture, j'ai un petit appartement. Enfin, je suis sans doute assez loin de ce que savent faire les zadistes, je dois le reconnaître, mais je suis en bon chemin.
Mais pour des questions un peu plus pratiques ou des mesures plus efficaces à mener peut-être rapidement, si on a échoué jusqu'ici à changer de modèle, il faut penser, et vous le rappelez, une nouvelle organisation avec de nouveaux fondamentaux. Vous pensez à quoi? Le recyclage, cette question de l'économie circulaire qui est à l'ordre du jour gouvernemental avec un plan pour l'économie circulaire qui a été présenté dans ses grandes lignes par Édouard Philippe à la mi-avril, qui a d'ailleurs loué la sobriété heureuse, cher à Pierre Rabhi. Est-ce que ça, c'est un début ?
Oui. C'est la, si vous voulez, la feuille de route, elle est loin de ce qu'on aurait pu attendre, mais elle n'est certainement pas nulle. Elle est assez en retrait par rapport à ce qu'on peut faire dans d'autres pays, mais ce n'est pas inintéressant. C'est déjà un premier pas. Et encore une fois, sur ces sujets-là, alors on est, si vous voulez, on est pris entre Caribbe et Scylla. On change pas une société très rapidement. C'est pas possible. On la change de façon graduée. Et quand on la change de façon violente, vous savez très bien qu'en général, on a tendance à revenir à l'état initial. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Donc on est pris entre l'urgence des difficultés, l'urgence des problèmes. Et puis, on est pris entre l'inertie, la lenteur. Donc, alors, il y a des points sur lesquels on pourra aller beaucoup plus vite.
Mais alors, l'économie circulaire, c'est fabriquer, consommer, jeter. Alors, et c'est ce cercle-là, vicieux aussi, qu'il faudrait briser.
Si vous voulez, l'économie circulaire, disons, c'est l'idéal selon lequel on pourrait avoir une économie qui fonctionne avec un stock de ressources ou avec des ressources totalement renouvelables. C'est-à-dire, en d'autres termes, on n'irait plus extraire des métaux et on n'empilerait plus des déchets. Donc c'est une sorte de modèle idéal. Simplement, alors une des clés de cette économie circulaire, c'est la question du recyclage. Et vous avez quelqu'un comme François Gross, qui était un ancien cadre dirigeant de Veolia, qui est certainement pas un gauchiste, hein, qui nous a montré qu'au-delà d'1% de croissance pour une matière donnée, eh bien tous les efforts de recyclage que vous pouvez faire n'aboutissent à rien. Donc en fait, une économie circulaire, c'est une économie qui au moins, je dis bien au moins, redescend en deçà, pour les matières, hein, j'entends, flux de matière, flux d'énergie, en deçà de 1% de taux de croissance. Et une économie permacirculaire, c'est une économie qui chercherait, alors sur le très long cours, à revenir dans l'espace de sécurité des fameuses limites planétaires. On en est très loin pour le moment.
Alors est-ce que sur cette nouvelle Terre, pour reprendre le titre de votre livre, Dominique Bourg, aux éditions Desclés de Brouwer, vous n'écouterez plus la radio, mais le média global? Est-ce que vous n'écouterez plus derrière votre transistor la grande table, mais en podcast? Vous n'avez pas la
podcast,
réponse.
Je l'écoute.
C'est déjà
quasi
le cas.
Quasi systématiquement.
Voilà. Et bien on va tout de suite parler de ça avec le rendez-vous du médiateur. Merci mille fois à vous, Dominique Bourg. Il est 13h21 sur France Culture.
La grande table. Le rendez-vous du médiateur.
Place au rendez-vous du médiateur, donc des antennes de Radio France avec vous, Bruno Denas, bonjour.
Bonjour Olivia Chesper, bonjour à tous.
France Culture, ce n'est pas que de la radio, c'est aussi 23 millions de podcasts en mars. France Culture est vraiment entrée dans l'ère du média global, hein, Bruno. Et pour en parler, vous avez sollicité notre directrice, la directrice de France Culture, Sandrine Trainer.
Sandrine Trainer, bonjour.
Bonjour.
Alors en effet, il y a pas mal d'auditeurs, comme Anne, qui nous écrivent. On entend de plus en plus parler de média global, mais c'est quoi et qu'est-ce que cela change pour nous, auditeurs? Alors cette semaine, vous avez un superbe exemple dans le domaine de la fiction.
Mais en fait, d'une certaine façon, il faudrait que personne n'entende parler du média global. Le média global, c'est pas... C'est un moyen, ça ne concerne pas au fond celui qui nous écoute ou qui nous regarde ou qui nous lit. Celui-là continuera à entendre parler de France Culture.
Oui, c'est pas une manière différente.
Non,
c'est pas une autre radio.
Non, évidemment que pas. Ce qui se passe très rapidement, c'est que nous sommes dans une période de mutation. Cette période de mutation, c'est pas n'implique la disparition de rien, mais au contraire l'élargissement de tout. Le numérique permet aux programmes de circuler, de voyager autrement vers les auditeurs ou vers les internautes. Or, nous savons que les nouvelles générations qui arrivent à nous, qui seront tout aussi intéressées par les contenus de France Culture que l'étaient les anciennes, ont des manières d'accéder aux contenus, aux programmes qui sont différents. Ils n'écoutent pas à travers un transistor, ils regardent leur smartphone, ils regardent leur tablette, leur ordinateur. Et donc, ils font ça tout en faisant autre chose. Ils se promènent sur les réseaux sociaux. Et nous, ce que nous sommes en train de faire à France Culture, c'est de diversifier notre offre de programme, de sorte d'aller vers tous les citoyens. C'est une mission de service public. Mais pour ceux qui écoutent la radio et qui nous écoutent en ce moment, eux, ils continueront à entendre nos émissions et nos journaux d'information.
Alors justement, cette semaine, vous avez sorti un podcast qu'on dit natif. C'est-à-dire qu'il ne sort qu'en podcast.
On pourrait dire un podcast original.
Original, voilà, qui n'est pas diffusé sur l'antenne. Et justement, il y a des auditeurs qui disent, mais pourquoi donc produire des fictions que vous ne diffusez même pas à la radio?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce que nous pouvons faire grâce au podcast, vous avez cité, Olivia a cité ce nombre de 23 millions de podcasts téléchargés, au mois de mars, en l'occurrence. Donc, vous voyez bien qu'en fait, il y a près de 1 million de personnes aujourd'hui. On sait qu'ils sont 1 million qui podcastent quotidiennement nos programmes. Donc, qui ont pris tout à fait l'habitude du podcast et pour lesquels le podcast, c'est simplement une autre manière d'avoir accès à la radio. Alors, qu'est-ce que nous permet là, en l'occurrence? Si on prend cet exemple, que je vous conseille vraiment d'aller télécharger sur notre...
Donc, c'est l'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, c'est
voilà.
ça?
C'est en l'occurrence une fiction, c'est une série, une série d'aventures historiques et politiques qui se passent en 1872. Vous verrez, le long du fleuve Congo, il y a un savant qui a disparu et une expédition qui se met en route pour aller le récupérer. Ça fonctionne de manière addictive, exactement comme le principe des séries telles qu'on les connaît à la télévision. C'est-à-dire que ce sont des épisodes de 15 minutes. Vous avez 10 épisodes de 15 minutes. Et c'est une manière tout simplement différente, extrêmement créative de raconter des histoires par le biais du son. Donc c'est simplement une autre manière de continuer à faire la même chose et en ouvrant là aussi l'horizon des possibles. En fait, on essaye des choses, on innove, on crée, on a pour ça des réalisateurs, des auteurs. Ils se sont emparés de ces nouvelles manières de diffuser nos programmes et c'est très heureux qu'il en soit ainsi parce que c'est comme ça que nous irons vers les nouvelles générations d'auditeurs de France Culture.
Alors, autre nouveauté à partir de lundi, là, à Radio France, on se complète entre chaînes, visiblement, puisque vous associez à France Info pour coproduire un programme audio et vidéo qui sera vraiment très informatif et très pédagogique, Les Idées Claires. C'est quoi le sens de cette démarche ?
Alors, c'est exactement ça, Bruno. C'est une démarche. Vous savez que France Info, par définition, produit chaque jour de l'information certifiée, vérifiée. Il y a un système d'agence à France Info. Hein. Vous êtes un ancien de France
exactement.
Info. Vous connaissez ça.
Tout est vérifié.
Bien mieux que moi. Et à France Culture, nous produisons énormément de contenu sur les connaissances. Or, nous savons qu'aujourd'hui, via les thèses du complot, mais pas uniquement, aussi en raison tout simplement de la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux et dans l'air du temps, nous faisons beaucoup d'informations sur les savoirs, qu'ils soient scientifiques, historiques, etc. Et on s'est dit, nous allons, avec le directeur de France Info, Vincent Giret, on s'est dit, et si on mettait ensemble nos forces pour produire chaque semaine à la fois un podcast, donc qui s'appelle Les Idées Claires, et un module vidéo qui fera 3-4 minutes, tout ça étant porté par notre producteur de science, Nicolas Martin, qui sera à la fois proposé sur le site de France Info, sur le site de France Culture et sur les réseaux sociaux. Nous allons nous emparer de sujets
de
connaissances. Ben, je sais pas. Par exemple, Nicolas Martin a déjà produit le premier podcast qui explique pourquoi et comment les créationnistes aujourd'hui continuent à marquer du terrain et comment on peut croire à la théorie créationniste et qui profite de cette question-là pour nous rappeler ce que c'est que la théorie de l'évolution.
Alors, un autre exemple d'expérience de médias globales proposée par France Culture, c'est l'impressionnant week-end prochain au Centre Pompidou. Alors là, des débats, des interviews, des ateliers, des concerts sur le thème Imagine 68-2018, l'esprit de mai. Alors, c'est un peu aussi l'esprit de France Culture, cette expertise en fait.
Oui, c'est la troisième année qu'avec le Centre Pompidou, que le Centre Pompidou et France Culture proposent un grand festival ouvert à tous. Et je dis d'autant plus ouvert à tous que c'est aussi en grande partie sur l'antenne de France Culture.
Mais pas tout.
Alors, ça sera samedi et dimanche. C'est de 11h30 du matin. On commence à faire des masterclass avec des grandes figures. Daniel Buren, Romain Goupil, Jean Nouvel, Orlan. Et donc, il y aura des masterclass, il y aura des rencontres, il y aura des débats toute la journée, ouverts à tous. Et puis des performances, et puis des concerts samedi soir. Et la projection de la version remasterisée de Mourir à 30 ans de Romain Goupil, dimanche soir à 19h30.
Alors, en deux mots, il y a aussi une forme de média global vraiment original, c'est un documentaire géolocalisé dans le quartier latin.
Et oui, que l'on doit à la Fabrique de l'Histoire, à l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin, Renaud Dalmar à la réalisation. C'est un documentaire in situ, ça dure 1h30. On vous propose d'aller on part de la place de la Sorbonne. On télécharge sur son smartphone une appli qui s'appelle Easy Travel. Elle est évidemment gratuite. Et là, on se promène dans tout le quartier latin, de la Sorbonne à l'Odéon, en écoutant un documentaire qui est composé d'archives, mais aussi d'entretiens. Écoutez, c'est à découvrir et c'est à partir de samedi 28 avril.
Bon, on a hâte de télécharger. Bon, merci Sandrine Trainer, directrice de France Culture, pour toutes ces explications. Et maintenant, je crois qu'on en sait un peu plus sur le média global.
Merci beaucoup Bruno Denas. Les auditeurs peuvent continuer à réagir et à vous écrire sur votre site.
Merci Olivia.
C'est mediateurbienvenue.radiofrance.fr. On se retrouve dans deux semaines. Quand une grande table se referme à l'antenne, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr. Vous pouvez retrouver sur notre site toutes les références citées au cours de l'émission, mais aussi nous suivre en podcast ou sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe, à Claire Maillot et Clémence Marie, à la programmation, à Henri Leblanc, Maxime Morin, Émile Boutelier, Eliana Valken, à la préparation et à la réalisation Perret Legras, avec aujourd'hui Lucas Vaillant. À 14h, vous retrouverez votre rendez-vous avec l'économie. Pour l'heure, très bel après-midi à tous sur France Culture.